Notre Dieu, notre Père, nous te sommes reconnaissants de ce que tu nous as laissé, ta parole, cette parole vivante, éternelle, qui ne change pas. Tu as dit, le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera point. Aussi, donne-nous de la chérir et, Seigneur, d'être décidé à la mettre en pratique pour qu'elle puisse en vivre à ta gloire. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Le Seigneur me travaille toujours par les paraboles en ce moment. Hein, cet été, on a commencé par des paraboles de fusée et autres, hein, de la grâce. Je voudrais que ce soit assez clair parce que, vous savez, le Seigneur me forme en même temps que vous hein, quand je prépare ces messages. Donc, j'apprends beaucoup de choses et je sens que c'est pas toujours facile de bien comprendre les paraboles. Je le vois aussi au travers des chrétiens évangéliques qui souvent, par manque de formation, font des interprétations à leur manière hein, sur un certain nombre de points théologiques. Et je crois que les principes théologiques des paraboles doivent être assez clairs. Et c'est pour ça que c'est bien d'y rester un petit peu. Dimanche dernier, pour ceux qui n'étaient pas là, j'ai pris la parabole du grain de moutarde, du grain de sénevé. Ce petit grain dont Jésus dit qu'il est le plus petit, en tout cas en Israël, c'était le plus petit grain, il y en a des plus petits. Mais il a pris cet exemple et j'avais parlé de la croissance de l'Église, de la croissance personnelle, la croissance de l'Église. Je voudrais, non pas rectifier, mais bien préciser que cette parabole-là, en fait, elle renvoie à deux principes théologiques, celle de la croissance, mais aussi celle de la royauté, du royaume. Et tout à l'heure, on prendra les autres parabole du royaume qui parle de l'autorité de Jésus. Jésus a différents endroits, vous savez, dans son ministère, qui n'a pas duré très longtemps, pendant 3 ans, il s'est adressé à la foule. Et quand il s'est adressé à la foule, la première fois, c'était le sermon sur la montagne. C'était sur une colline, hein, c'était pas une grande montagne, mais c'était une colline sur laquelle Jésus s'est assis et il a enseigné la foule sur les principes de comportement du royaume, donc comment on doit se comporter dans le royaume de Dieu. C'est Matthieu 6, sur les principes du royaume au niveau du comportement. Un peu plus loin, un peu plus tard, juste avant la fin de son ministère, Jésus a voyagé, vous savez, la Galilée c'est au nord, Jérusalem c'était au sud, et la Galilée c'était là où il a vécu, étant jeune, avec ses parents, Nazareth, etc. Et juste avant la fin, avant qu'il rentre dans la droite ligne de sa mission sur la croix, où il a livré sa vie, il a fait un autre sermon, qui n'était pas sur une colline, mais qui était auprès de l'eau, la Galilée. Et là, il a donné les principes du royaume. Donc, nous trouvons les paraboles sur le royaume. Et donc, j'aimerais bien qu'on puisse comprendre. Parabole. Une fois de plus, ce n'est pas une allégorie. Une allégorie, c'est quelque chose d'inventé, c'est une histoire inventée, où tous les détails ont une signification. Tous les détails. Par exemple, la République française a inventé l'allégorie de Marianne. Et tous les détails signifient quelque chose sur les principes de la République. Ce n'est pas le cas d'une parabole. Et c'est là qu'il y a une grosse erreur de la part de certains théologiens qui ont beaucoup perverti le christianisme en Alexandrie, Philon, tout transformant en allégorie, tout ce qui est biblique. Et beaucoup d'églises, de chrétiens évangéliques utilisent des allégories. Et c'est pas bon. C'est pas bon. Parce que tout n'est pas signifiant sur le plan spirituel. Jésus a utilisé des histoires quotidiennes, au quotidien. Et il n'y a que certaines vérités qui sont à appliquer, pas tous les détails de l'histoire. Pour revenir sur la parabole de Jésus sur la croissance, le plus signifiant, la parabole qui signifie vraiment la croissance, c'est celle du lys, hein, qui se trouve dans Matthieu, hein, chapitre 6, donc c'est le sermon sur la montagne. Quand Jésus parle de l'inquiétude, vous savez, c'est une préoccupation quotidienne, il y en a qui sont jamais inquiets, levez la main. Hein. Je crois que l'inquiétude fait partie de notre vie, pas quotidienne, j'espère, mais de temps en temps, on peut être inquiet. Or, Jésus dit, nul ne peut servir de maître, je lis dans Matthieu 6, verset 24, car il haïra l'un et s'attachera à l'autre, il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni de votre corps, de quoi vous serez vêtu, etc., etc. Et au verset 28, il dit, et pourquoi vous inquiétez-vous au sujet des vêtements? Observez comment croissent les lys des champs, ils ne travaillent ni ne filent. Ce qui est intéressant, c'est que le verbe utilisé, observer, c'est katamete en grec. Katamete. C'est la seule fois où on trouve ce mot dans le Nouveau Testament. Donc si Jésus l'utilise, c'est qu'il y a une signification particulière derrière. Kata, le préfixe kata, insiste sur l'importance d'observer, sur l'attention très méticuleuse, très soigneuse d'observer. Mettez, c'est observer très soigneusement quoi? La croissance du lys. Or, le lys, vous savez, c'est cette... ça marchait tout à l'heure, hein? Non? Ça a disjoncté? Il est en bas. Bon, enfin, je ne sais pas, mais tout à l'heure, ça va marcher. Le lys, c'est une fleur hein, qui pousse à partir d'une graine. C'est pour ça que je me suis permis de prendre le moutardier, qui est aussi une graine qui fait pousser les choses. Donc, le lys, si on observe soigneusement la croissance du lys, comme Jésus demande, ça nous donne un motif pour ne pas nous inquiéter. Et c'est un principe où Dieu veut montrer, enfin Jésus veut montrer au travers de cette parabole, que si Dieu prend soin de la vie végétale, de la vie organique, de la vie biologique toute simple, à combien plus forte raison prend-il soin de notre vie spirituelle? Il ne nous laisse pas tomber pour notre vie spirituelle ou notre vie matérielle, bien sûr, puisque de toute façon la vie biologique, elle suit le même mécanisme que celle du lys ou du moutardier. Donc nous pouvons prendre cet exemple-là comme élément de base, et nous voyons, comme nous avons vu dimanche dernier, que la croissance est progressive, hein, que le lys ne grandit pas d'un seul coup, que le moutardier ne grandit pas d'un seul coup. Donc c'est un enseignement pour nous aussi d'accepter les saisons de formation dans nos vies, de passer d'une étape à l'autre. On peut passer plus ou moins vite, c'est vrai. Un Timothée a passé très vite de l'étape d'enfant à l'étape de leader. Certains lui reprochaient. Et Paul disait non, c'est pas sa jeunesse qui compte, c'est sa maturité. Il y a des gens qui deviennent matures très vite, il y en a d'autres, même à 80 ans, ils ne sont pas matures. Ils sont enfants. Hein. Je connais des chrétiens qui sont enfants, alors qu'ils ont 80 ans. Donc, c'est pas le point de vue biologique qui compte, c'est vraiment les étapes que nous franchissons. Et Joyce Meyer a cette formule, hein, disait, si vous ne passez pas l'étape supérieure, ben vous tournerez dans votre désert pendant 40 ans. Si vous arrivez devant Canaan, vous ne pouvez pas rentrer, ben vous allez retourner jusqu'à ce que vous appreniez. C'est un principe de base. Donc, si vous ne voulez pas tourner dans votre désert, eh bien, acceptez de recevoir de Dieu et de passer à l'étape suivante. Les paraboles, et en particulier celle du royaume qu'on va prendre tout à l'heure dans Matthieu 13, où nous voyons les paraboles du royaume, elles s'inscrivent dans la perspective de la venue de l'autorité de Dieu dans le règne des hommes. C'est ce qu'on appelle l'autorité de Jésus, hein, qui est venu, qui s'est fait homme et qui est venu apporter l'autorité. Tous ceux qui étaient au bénéfice du ministère de Jésus, qui voyaient Jésus faire, ils étaient frappés par quoi? Qu'est-ce qu'ils étaient frappés? Ils le disaient. C'est-à-dire, ils parlaient avec autorité. Ils parlaient avec autorité. Quand ils disaient quelque chose, les choses s'accomplissaient, voyez-vous? L'autorité, c'est ça. C'est que vous dites quelque chose et ça s'accomplit. Quand ils prenaient la parole, les choses se passaient ainsi. Que ce soit une guérison, que ce soit une délivrance, que ce soit sur la nature, que ce soit sur toute force quelconque, Jésus parlait avec autorité. Alors que les pharisiens, ils parlaient avec une parole qui était creuse. Hein, était creuse. Et en plus, ils étaient hypocrites. Et ça, tout le monde le savait, qu'ils demandaient des choses aux gens qu'ils ne faisaient pas eux-mêmes. Donc c'était encore pire. Donc non seulement ils n'avaient pas d'autorité dans la parole, mais en plus ils s'étaient discrédités par leur vie. Ne soyons pas comme eux. Et très souvent, dans le monde religieux, on trouve cette attitude parce qu'on veut paraître. Hein. Non, il ne faut pas paraître, il faut être. Or, le contexte des enseignements des mystères du royaume, hein, nous allons prendre dans les paraboles du royaume dans Matthieu 13, donc tout le chapitre 13, c'est les paraboles qui nous parlent des mystères du royaume. Eh bien, l'ensemble de ces mystères, ils ont. Pourquoi Jésus a parlé ainsi? C'est Marc qui nous le révèle dans le chapitre 4 au verset 11 et 12. Jésus leur dit aux disciples, il dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux du dehors, tout se passe en parabole, afin que tout en regardant bien, ils ne voient pas, et qu'en entendant bien, ils ne comprennent pas, de peur qu'ils ne se convertissent et qu'il ne leur soit pardonné. Comment vous comprenez cette interprétation des paraboles du mystère du royaume? Mystère, entre parenthèses, ça a plusieurs significations, mais dans le Nouveau Testament, il est utilisé dans le sens de la révélation d'un secret caché, mais qui est révélé maintenant. C'est-à-dire qu'il est révélé à tous, hein, dans l'histoire. Ce n'est pas un secret qu'il faut chercher au fin fond des bois. Il est révélé par l'histoire, et en particulier l'histoire de Jésus. Donc tout le monde est au courant du mystère. Mais tant que Jésus n'était pas venu, on ne pouvait pas trop savoir de quoi il s'agissait. Alors, pourquoi Jésus parle en parabole? Pour que ceux qui entendent ne comprennent pas, et ceux qui sont à l'écoute de cette parabole ne se convertissent pas, à votre avis. Vous avez déjà réfléchi à cette problématique un peu particulière, hein, sur les mystères du royaume. Là, je vous fais réfléchir, là. Ça chauffe dans les esprits. Ça fait partie, on va le voir tout à l'heure, d'un paradoxe, une sorte de paradoxe. Hein, quelque chose qui est contraire. Hein. Tout simplement parce que le royaume de Dieu, l'autorité de Dieu, elle ne s'impose pas à nous. Il faut l'accepter. On ne se convertit pas par opportunisme. Bien sûr, avec Constantin au IVe siècle, quand l'empereur est devenu chrétien, il a décrété que le christianisme, c'était la religion officielle. Alors, vous imaginez bien que, en particulier les fonctionnaires, ils avaient tout intérêt à être du côté du roi, hein, pour garder leur place. Donc vous voyez, c'est l'opportunisme. Hein, mais ça ne fait pas d'eux des chrétiens. Alors, vous voyez, souvent on fonctionne par opportunisme. Hein. Ça vaut le coup, j'ai tout à gagner, donc je le fais. Mais ça, c'est pas être chrétien. Hein. Et vous, le christianisme, c'est une relation avec Dieu. Or, beaucoup nous sommes poussés dans notre chair à faire de l'opportunisme. Hein. La superstition est à base d'opportunisme. Hein. Si on a peur, si on craint, si on accepte facilement une puissance supérieure qui va nous aider, qui va nous protéger. Okay, mais c'est de la superstition. Ce qu'il faut, c'est être attaché à Dieu pour ce qu'il est. Et après, on bénéficie de sa grâce, bien sûr. Vous voyez, c'est d'abord être avant de faire. Or, Jésus parlait en parabole parce qu'il révélait des réalités, mais il fallait que le cœur soit déjà touché pour comprendre ce que Jésus voulait dire dans la signification d'un élément de cette histoire. Hein, de l'élément de cette histoire, pas toute l'histoire. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les paraboles du royaume s'inscrivent dans les circonstances où Jésus vient pour apporter le règne de Dieu. Jésus a dit, le règne de Dieu s'est approché de vous. Le royaume de Dieu s'est approché de vous, a-t-il dit à ses disciples. Ça veut dire que dans l'histoire qui précède Jésus, Dieu a toujours existé, mais son règne, eh bien, indirectement, il s'est manifesté au travers de David, par exemple. David est l'archétype, le type particulier de Jésus qui va venir. Et David avait le cœur de Dieu, mais après lui, il n'y en a plus beaucoup. Hein. Pratiquement plus aucun roi qui a ressemblé à David dans l'intégrité, dans l'humilité, etc. C'est très difficile. Hein. Il n'y a que Jésus qui a manifesté parfaitement cette intégrité du trône de David. Donc, quand Jésus est venu, il a amené avec lui l'autorité de Dieu parmi les hommes. Il a apporté la royauté. La vraie royauté, la royauté de Dieu au travers de Jésus. Et c'est ça les mystères qui sont révélés dans les paraboles du royaume. L'autorité de Dieu qui vient parmi les hommes. Alléluia. C'est formidable ça. Et cette autorité se manifeste eh bien, d'une manière particulière et on va le voir dans la suite. Alors je vous rappelle la parabole du grain de moutarde, hein, qui est le plus petit grain. Qui devient une fleur après avoir poussé sur une tige, fleur de moutarde. Vous avez déjà vu la fleur de moutarde? Non? Ah bah, c'est que vous n'avez pas de jardin. Moi, je n'ai. Quand vous savez pas quoi planter, vous. Pardon? Qu'est-ce que j'ai dit? Ah, le jardin! Les tomates? Non, mais quand vous savez pas quoi faire, vous semez de la moutarde. Pourquoi? Parce que c'est un engrais azoté. Donc, ça donne de l'azote. Vous retournez l'année suivante, et alors là, vous avez toutes les tomates que vous voulez, parce qu'il y a de l'azote dedans. Hein. C'est une astuce qu'on appelle l'assolement du triennal, qui est connue. Moi, je l'ai fait dans le passé. Et ça donne des très très belles fleurs, hein, comme quoi vous voyez ici. Et après, vous avez de l'azote l'année d'après, quand vous l'enfouissez. Voilà. Le moutardier devient très grand, hein, en particulier en Israël, jusqu'à 2,50 m. Il faut prendre des échelles pour cueillir les grains de moutarde. Donc Jésus a pris cet exemple pour montrer qu'une de toute petite graine de légumes, c'est un légume, hein, c'est pas un baobab, c'est un légume, comme les carottes, comme vous voyez, devient très grand. Et donc là, vous avez les cycles de croissance, mais c'est aussi vrai pour le lys, hein, qui aussi est le principe d'une semence. Donc la naissance de la pousse, la fleur, la reproduction, parce qu'il y a une fécondation entre l'ovaire, hein, qui est là, et le pistil, donc qui pollinise la fleur, pour devenir un fruit. De manière à ce qu'il puisse se réensemencer. Donc il y a tout ce cycle. Quand on observe bien, hein, katamété, Jésus a dit observez bien, parce que ça c'est le principe de la croissance aussi spirituelle. Et je parlais du fraisier qui était le modèle que nous avions en 1983 quand les églises de maison CC grecques ont été créées. Le modèle du fraisier qui n'est pas du tout biblique, mais qui a été pris par notre leader parce qu'en fait il se croit plus vite le fraisier. Mais vous savez, on peut pas brûler des étapes, hein, même si on veut aller vite. La preuve c'est qu'aujourd'hui, 30 ans après, il n'y a plus aucune église de maison dans les Yvelines, alors qu'en fait l'objectif c'était de remplir les Yvelines par les églises de maison. Et c'est par le stolon, donc c'est en surface, c'est le stolon, une résurgence du fraisier qu'on remet en terre ou qui se remet tout seul et qui repart. Donc à partir d'une mère on en fait des petits, mais ils ne passent pas par la mort. Par la mort, la résurrection, enfin la semence, etc. Donc, si Jésus a dit qu'il faut ressembler à un moutardier, c'est que il faut pas que nous on choisisse un autre modèle qui peut-être nous plaît parce qu'il donne plus rapidement des résultats, parce qu'il y a des principes spirituels qui se trouvent cachés derrière. Pour revenir au royaume de Dieu, Dieu règne. L'homme sur la terre a refusé ce règne, puisque Adam et Ève, ils ont accepté la parole de Satan, de l'ennemi, et nous aussi on l'accepte, parce qu'on est de la même nature qu'Adam. Donc tout naturellement, nous sommes enclins, nous sommes, disons, voués à plus être sensibles au mensonge qu'à la vérité. Tous, hein, même étant chrétien. Hein. C'est notre chair, ce qu'on appelle notre chair. Jésus est la vérité, il est venu, il a apporté, il a fait venir le règne de Dieu, la royauté, parmi les hommes, parce que lui était sous l'autorité de Dieu. Donc en tant que nouvelle humanité, nouvel être qui crée une nouvelle race, il a apporté le royaume de Dieu sur la terre. Il s'est approché de nous. Vous suivez? Mais ça, c'est l'accomplissement. Ça, c'est le début, si vous voulez, du règne. Donc c'est l'accomplissement par la venue de Jésus. Mais ce n'est pas la consommation. Il y a deux étapes dans le royaume de Dieu qui vient. Il y a deux étapes dans l'histoire. Donc, en fait, là, il y a la chute, hein, d'accord, mais là, on ne parle pas de ça. On parle du règne de Dieu qui est venu en Christ. Donc, dans l'accomplissement du royaume de Dieu. D'accord ? Mais nous savons que tous ceux qui deviennent chrétiens, quand ils acceptent Jésus dans leur vie, on reste physique, on reste dans notre vie naturelle. Donc nous, on continue à marcher dans notre nature. Mais en tant que chrétiens, nous sommes dans les lieux célestes avec Christ. Amen. Donc nous sommes en autorité dans les lieux célestes avec Christ. Donc l'Église véritable, l'Église, l'épouse de Jésus-Christ, elle a deux natures, une nature céleste qui accepte l'autorité du Christ et une nature charnelle qui continue à vivre comme avant, mais pas de la même manière en étant chrétien. Mais un jour, Jésus va revenir. Amen. Et ça, on appelle ça la consommation du royaume. Consommation. Et ensuite, après, il n'y aura plus qu'un seul vécu de l'autorité, qui sera l'autorité de Christ sur la terre. Donc à son retour, on appelle ça la consommation. En théologie, il y a l'accomplissement de la venue de Jésus et la consommation. Donc si vous voyez ça dans la littérature, sachez que ça représente ces deux événements dans l'histoire. Les mystères sont des secrets divins qui sont cachés de toute éternité, mais dévoilés à tous les hommes par la révélation. N'importe qui, là nous sommes dans cette période-là, hein, plutôt vers la fin qu'au début, bien sûr, mais dans cette période de l'histoire, hein, où nous pouvons accéder à la compréhension de ce que Jésus a fait, de ce qu'il va faire, hein, par la révélation du Saint-Esprit. Dans Romains, nous avons cette explication dans Romains, chapitre 16, verset 25, que je vais vous lire tout de suite. Romains 16, verset 25. À celui qui a le pouvoir de vous affermir, selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère, tenu secret dès l'origine des temps, mais manifesté maintenant par les écrits prophétiques, d'après l'ordre du Dieu éternel, et porté à la connaissance de toutes les nations, en vue de l'obéissance de la foi. Voyez-vous ce mystère caché du règne de Dieu qui existe, hein, mais qui s'est manifesté en Jésus? Eh bien, tous maintenant le savent, par contre tous n'obéissent pas, y compris les chrétiens. On peut savoir que Jésus est là, on peut être baptisé en Jésus-Christ et ne pas obéir. Et là, eh bien, nous ne bénéficions pas de l'autorité de Dieu, du royaume de Dieu. Tous les hommes sont exhortés à le croire, mais seuls ceux qui répondent, eh bien, bénéficient de la grâce de Dieu. C'est pour ça que la parole de Dieu nous associe à une femme. Nous sommes tous féminins, si vous voulez, même les hommes. Parce que nous sommes l'Église. L'Église, c'est féminin. C'est une épouse. Okay, homme ou femme, nous sommes l'épouse de Jésus-Christ. Et une épouse est censée répondre à l'époux. C'est ça son rôle. C'est-à-dire que pour que l'amour circule, il faut qu'il y ait une initiative de l'un vers l'autre et de l'autre qui retourne à l'autre. Sinon, l'amour, il est statique. Mais l'amour est dynamique. L'amour va de l'un à l'autre et de l'autre à l'un. C'est tout le cantique des cantiques que vous avez, etc., du principe de l'amour. Christ nous a aimés, mais nous devons lui être reconnaissant, le remercier en retour. Et c'est dans ce sens-là que l'amour circule et que nous recevons à nouveau l'amour de Jésus et que nous lui redonnons. C'est pourquoi aussi les cultes sont des cultes d'adoration et de louange et de reconnaissance et que nous exprimons notre amour, y compris par les émotions. Les émotions doivent pouvoir s'exprimer, bien sûr, sans débordement excessif, parce que c'est une manifestation de la réponse. S'il n'y a pas de réponse, eh bien, il peut pu y avoir, parce que Jésus attend. Tu es content? Tu n'es pas content? Tu as reçu un cadeau? Or, tu dis rien, vous voyez. C'est comme si vous donnez un cadeau à quelqu'un, il est là, comme de marbre, vous dites, vous voyez, vous-même, vous êtes choqué. Bon, parce que l'amour, c'est quelque chose qui s'exprime de l'un vers l'autre, et c'est ce qui se passe avec le Seigneur. C'est pourquoi, souvent, on fait des appels. Appel au salut. Mais appel à la guérison, appel à la repentance, appel. Si personne ne répond, bah, y a pas, ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Vous voyez, si nous recevons un appel, que ce soit dans notre cœur, que ce soit dans l'église, par un serviteur de Dieu et tout ça, que nous ne répondons pas, bien, ça sert à rien. Nous repartons comme nous sommes venus. La réponse fait partie de ce cycle dynamique de l'amour que Dieu nous manifeste et que nous lui répondons en retour que nous avons bien reçu cet amour de sa part. Dans Matthieu 13, nous allons maintenant passer à ces paraboles du royaume qui dévoilent les mystères cachés de toute éternité, mais qui sont révélés en Jésus. Jésus parle de ces paraboles avec six paraboles. Donc il y a six paraboles. Okay. La première parabole, si vous voulez bien me la citer, c'est laquelle? Pardon? Parlez bien fort. Le semeur. La deuxième parabole, c'est l'ivraie. La troisième parabole, graine de moutarde. Donc le moutardier. Quatrième parabole, le levain. Cinquième parabole, le trésor caché. Alors on va y associer la perle de grand prix, parce que c'est exactement le même enseignement. Et sixième, le filet. Le filet, vous savez, avec les poissons. Hein. Voilà. Ces six paraboles du royaume montrent quelque chose de particulier concernant le royaume, c'est-à-dire la royauté de Jésus, enfin la royauté de Dieu au travers de Jésus. Ok ? Alors, le contexte de cette parabole, de ces paraboles, je vous l'ai dit, c'est entre l'accomplissement et la consommation. Là, il commence à plus marcher, il se tarit. Je crois que j'en ai un de secours. Il faut toujours avoir un de secours. Il devrait marcher. Voilà, entre l'accomplissement et la consommation. Donc la venue de Jésus et le retour. On est d'accord? Et nous sommes quelque part ici. Voilà. La parabole du semeur. Si nous prenons la parabole du semeur, qu'est-ce qu'elle nous apprend, la parabole du semeur? C'est le message dimanche dernier, hein. C'est que, en fait, il y a un semeur. Alors, c'est pas toujours forcément Dieu. Hein. Dieu peut être le semeur. Mais ça peut être aussi nous quand nous évangélisons. Il sème un grain dans lequel il y a la vie. Ok, une semence. Cette semence, elle tombe en terre. Donc, il y a la notion de la terre. Terre. Elle germe. Et elle donne un de l'herbe, un début d'épi. Ensuite, après, l'épi se remplit, donne des grains, qui donne des fruits, et qui se ressème, et le cycle continue. Okay? Cette parabole, en fait, elle parle de la reproduction de la vie, elle parle de la fertilité que représente la vie, puisqu'il y a la vie, Dieu a mis la vie dans la semence, hein, et qu'elle donne la vie en passant par des stades de croissance. C'était le message de la semaine dernière, c'est notre modèle de croissance. La parabole de l'ivraie, et ça se passe entre ces deux événements, accomplissement, consommation. La parabole de l'ivraie, qu'est-ce qu'elle nous apprend? Qu'est-ce qu'elle nous apprend? Qu'il y en a un autre qui sème quoi? De l'ivraie, des mauvaises herbes. D'accord? Et qu'est-ce que dit cette parabole? Qu'est-ce qu'on fait avec l'ivraie? Est-ce qu'on l'arrache? Les disciples voulaient l'arracher. Pardon? Vous laissez pousser? Oui, moi je prends la tête quand je vois les mauvaises herbes qui poussent dans mon jardin. J'ai du mal à les laisser pousser. Des fois, on ne peut pas faire autrement, on n'a pas le temps. Mais on aimerait bien les arracher. Quand on les arrache, ça pousse beaucoup mieux. Jésus dit de ne pas les arracher. Il était formel. Hein. Quand est-ce qu'ils vont être enlevés? À consommation. À consommation. Vous voyez, les deux événements sont importants. Pendant ce temps-là, cette parenthèse de l'histoire, si vous voulez, qu'on appelle l'Église, faut pas toucher. C'est quoi comme enseignement qu'il faut tirer? Jésus a dit, est-ce que vous avez compris les paraboles aux disciples? Ils ont dit oui. Vous avez compris cette parabole de l'ivraie? Alors qu'est-ce que ça veut dire? Sur le royaume de Dieu, sur le règne de Dieu, sur la royauté de Dieu. Pardon? Pas juger. Voyez-vous, quand on comprend les paraboles, ou quand on ne les comprend pas, notre attitude de chrétien est différente. Parce que les paraboles donnent un repère sur notre attitude que nous devons comporter dans la vie. C'est pour ça que c'est important de comprendre les paraboles. Jésus a dit, est-ce que vous avez compris les paraboles? Que je les ai racontées aux autres, mais bon, au grand public, s'ils n'ont pas tourné leur cœur, ça ne sert à rien. Mais vous les avez compris? Si on ne les comprend pas, on ne sait pas comment se comporter. Là, c'est un problème de comportement dans la vie du chrétien. Cette parabole, bon, on pourrait faire tout un message là-dessus, c'est pas l'objet d'aujourd'hui, c'est simplement qu'il faut accepter la situation du mélange entre le bien et le mal dans le monde, entre les méchants qui sont à côté de nous. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prier pour que Dieu intervienne, mais ça veut dire que c'est un fait. C'est un fait. Dieu les frappe pas parce qu'ils sont méchants du jour au lendemain. À un moment donné, il y a la patience de Dieu qui fait qu'il intervient. Mais l'autorité de Dieu se manifeste en même temps que l'autorité du diable. Et de ceux qui le suivent, c'est tout. C'est so what? Voyez-vous, c'est pas la peine de se cogner la tête contre le mur, c'est ma tête qui va péter, c'est pas le mur. C'est une réalité du royaume, c'est ce que Jésus apprend. Donc il faut faire avec, c'est Jésus qui l'enseigne. L'ivraie fait partie de la vie et Dieu ne change pas la société est ce qu'elle est, il faut l'accepter, mais il faut vivre en société. Alors, certains chrétiens ont trouvé, ils ont fait les endroits monachiques, c'est-à-dire qu'ils sont allés dans les monastères, où, bon, c'est une solution. Mais ce n'est pas l'enseignement de Dieu. Hein. Il dit, vous vivez dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. La troisième parabole, il faut que j'aille vite, parce que je vois que le temps est consommé. La moutarde. Qu'est-ce que dit la moutardier? On va oublier la croissance, parce que c'est le lys qui nous l'apprend, mais bon, c'est vrai aussi sur le moutardier. Qu'est-ce qui nous apprend le moutardier? Sur le royaume de Dieu, sur le règne de Dieu, sur la... Qu'est-ce que vous comprenez de cette parabole? Il y a une chose à comprendre, il n'y a pas tous les détails, comme je vous l'ai dit, à comprendre, c'est une chose à comprendre de cette parabole. C'est quoi? Voilà, c'est l'insignifiance de l'autorité de Dieu. Pourtant, Dieu, il est puissant, on le chante, on l'a chanté ce matin, il est puissant. Il pourrait, d'un seul regard, eh bien, écraser tout, mais il ne le fait pas. C'est l'insignifiance de l'autorité de Dieu, qui pourtant est puissante, c'est ce paradoxe qui est enseigné par Jésus, il y a la puissance de Dieu en chacun de vous, l'autorité que vous avez reçue, elle est en vous au travers de cette compréhension. Et à la fin des temps, ce sera un grand arbre. Et qu'est-ce qui illustre le mieux cette parabole dans l'Ancien Testament? Est-ce que ça vous vient à l'idée? Il y a quelqu'un qui a reçu une révélation avant la révélation du Nouveau Testament, c'est Daniel. Rappelez-vous. Qu'est-ce qu'il a reçu, Daniel? Il a interprété la vision du roi. C'était quoi cette vision? C'était quoi la vision? Hein? La vision de Daniel, qui est en fait la parabole du moutardier, c'est que il y avait un colosse, hein? Un colosse, hein? Qui représentait tous les royaumes de la terre qui se succèdent, la Grèce, le machin, etc. Bon, on pense que, bon, alors après c'est une interprétation, que le dernier royaume, qui sont les pieds, les jambes et les pieds, c'est le royaume actuel, hein, qui est fragile et fort en même temps, c'est-à-dire l'argile et le fer qui sont mélangés, c'est-à-dire la démocratie et l'autocratie qui sont mélangés, mais enfin ça c'est la politique, il faudrait rentrer plus là-dedans, qui montre cette fragilité. Hein. Et qu'est-ce qui se passe à la consommation de ce siècle de l'autorité? C'est... Qu'est-ce qui parle là? Il y a une pierre qui se détache. Elle se détache d'où? Vous connaissez cette histoire? Relisez-la, parce qu'elle est fantastique pour ce qu'on appelle la consommation des siècles, l'arrivée de ce qui se passe à la fin des siècles. Hein? Il y a une pierre qui se détache dans le ciel, pierre qui se détache et qui frappe la statue. Et la statue est désintégrée en morceaux et la pierre devient quoi? Une montagne. Une montagne. C'est la montagne de Sion. Okay? C'est la montagne. C'est le royaume de Dieu devient une montagne. C'est-à-dire que cette insignifiance, ça rejoint le grain de moutarde, cette insignifiance eh bien, devient la montagne. Et c'est elle qui siégera avec Christ, bien sûr, comme une montagne qui, elle, dominera toutes les royautés de la terre. Il faut que j'aille vite, je ne peux pas rester là-dessus. Le levain. C'est quoi la signification du levain? Hein? Le levain, vous avez de la pâte, vous mettez un peu de levain dedans, et qu'est-ce qu'elle devient cette pâte? Tchouk. Et toute la pâte devient levain, si vous voulez. Okay? C'est ça que dit la parabole. Donc, c'est la transformation. On a un cours qui s'appelle transformation. Ça montre la transformation. On peut tous être transformés complètement. Hello? Tu as compris? Tu peux être transformé complètement. C'est toi qui arrêtes le processus de transformation dans ta vie, si tu veux. Mais l'objectif du royaume, c'est de nous transformer. C'est de transformer tous ceux qui s'approchent, transformer l'Église, transformer chacun de nous. C'est ça. C'est tout. Si vous avez compris ça, vous avez compris la parabole du levain. Ensuite, le trésor caché, une fois de plus, entre les deux événements, qu'est-ce qui se passe? Il y a un trésor là-dedans, okay, dans la terre, on ne le sait pas. Hein. Il y en a un qui cherche avec son pic. Et il sait qu'il y a un trésor, il ne sait pas où il est. Et il tombe dessus, et qu'est-ce qu'il fait? Ils vont tout. Vont tout. Vite, ils ferment le trou, tac, ils vont tout. Qu'est-ce que ça veut dire, cette parabole? Par rapport au royaume de Dieu, par rapport au règne de Dieu, par rapport à l'autorité de Dieu. Ça veut dire quoi? Vous avez compris, disait Jésus aux disciples, cette parabole? Je l'ai racontée. Est-ce que vous avez compris? Quel est l'enseignement dans votre vie? C'est quoi, Nick? Je te mets au défi. De toute façon, vous le faites déjà, en tant que chrétien, enfin j'espère. Mais c'est simplement bien mettre tes mots sur une réalité de parabole que Jésus a racontée. Quoi, Cathy? Oui, ouais. C'est-à-dire, on a trouvé Jésus, qui est le trésor du royaume. C'est lui qui est porteur de l'autorité de Dieu. C'est lui qui a chassé les démons, qui a transformé les vies, qui prend autorité sur la nature entière, en un mot, etc. Vous avez trouvé un trésor extraordinaire et vous vendez tout. Alors, souvent, le chrétien ne vend pas tout. C'est ça le problème. Il garde une partie pour lui. Et c'est comme ça que ça ne marche pas très bien. Okay. Celui qui accepte de vendre tout, c'est-à-dire de se donner complètement à Jésus, il expérimente eh bien, la puissance du royaume. C'est ça le royaume. C'est ça l'information que nous donne, comme la perle d'ailleurs, qui est exactement la même chose. On tombe, le règne est invisible, on ne le voit pas. Sonia, tu aimes Jésus, tout ça. Si tu vas à la Défense n'importe où, les gens ne le voient pas comme ça. Mais il est là, vous voyez, c'est invisible, c'est tout petit, c'est un trésor. Mais vous le valorisez. C'est vous. C'est moi qui le valorise. Est-ce que je le valorise au bon niveau de valorisation? Est-ce que j'y crois? Vous voyez, parce qu'il est invisible. On ne le voit pas, la vie de Jésus, elle est spirituelle. Okay, vous voyez, c'est ça qui est important à comprendre et ce qu'on en fait. Et dernière parabole, c'est la parabole des poissons, du filet. Qu'est-ce que nous apprend cette parabole? C'est quelque chose qui nous irrite en tant que chrétiens particulièrement, moi aussi. Mais il faut l'accepter parce que c'est Jésus qui a enseigné que le royaume fonctionne comme ça, comme il l'a appris. Ça veut dire quoi cette parabole du filet? Un homme jette le filet, il ramasse tous les poissons. Allô? Vous avez compris les paraboles du royaume? Il faudrait qu'on y revienne alors. Déjà, l'aboutissement de cette parabole, c'est quoi? C'est que le tri des poissons se fait à la fin. Ok? Allô? Ça veut dire qu'il y a un mélange. Il faut accepter le mélange. C'est-à-dire, y compris dans l'Église, il y a un mélange. Il y a beaucoup de chrétiens qui aujourd'hui disent « Moi, l'Église m'a blessé, j'y vais plus. » Ok? Le problème, c'est que Jésus, il a donné sa vie pour son Église. Bon, c'est son corps. C'est vrai qu'il y a des blessures. Pourquoi? Parce qu'on est tous imparfaits. Parce qu'au moment où tu es rentré dans l'Église, si elle est parfaite, elle ne l'est plus. Hein. C'est normal. Hein, on est tous imparfaits. Il faut l'accepter. Par contre, si tous nous cherchons à être sous l'autorité de Dieu, ça va changer les choses. Voyez-vous. Et là, on va avoir un autre enseignement sur l'autorité de Dieu dans l'Église. Et c'est ça que moi j'ai dû apprendre. Moi qui étais 68 ans, je ne croyais pas à l'autorité. J'ai suivi mon époque. Hein. Pour moi, c'était tout le monde doit avoir le même niveau d'autorité. Pas d'autorité, tout le monde est grand, etc. Bon, c'est notre problématique que je ne vais pas aborder là. Mais là, il est dit que dans une église, il y a des poissons. S'il y en a un qui vient ici, qui est complètement bariolé, tout ça, comment vous allez réagir? Est-ce que vous allez l'accepter tel qu'il est? Et souvent, c'est Dieu, il fait ça pour nous tester. Est-ce qu'un marginal complet, est-ce qu'on va l'accepter? Et s'il est sauvé, c'est un enfant de Dieu. Amen. Ce qu'il faut, c'est qu'il faut qu'il passe par le processus de sanctification, mais s'il n'y passe pas, il faudra le supporter. Alors là, on avale de travers. C'est ça la difficulté de l'Église. C'est que Dieu nous a sauvés, quel que soit, on n'a pas de mérite, aucun n'a de mérite. Mais on est mélangé. Alors bien sûr, c'est au responsable de l'Église, au serviteur de Dieu, d'aider à ce que l'Église avance. Et c'est ce que j'ai dû apprendre avec beaucoup de souffrance, pour que on puisse, même celui qui n'est pas, qui est très loin parfois de la norme de sanctification, il faut l'accepter. Mais c'est un mélange qu'il faut accepter. L'Église est faite de gens qui ont accepté Jésus, qui sont imparfaits et qui doivent cheminer avec le Seigneur pour grandir dans la sanctification, pour le bien de tous. Alors, est-ce que vous avez compris les paraboles? Il n'y a pas grand-chose à comprendre. À chaque parabole, il y a juste un message. Ok? Donc ne cherchez pas les détails. Simplement, rappelez-vous que ici, c'est la croissance de... Et que c'est la terre c'est nous. Il y a un paradoxe à accepter, c'est que accepter la vie de Dieu, vous ne pouvez rien faire, la vie c'est la vie. Vous ne pouvez pas la modifier, elle le fait tout seul. Mais en même temps, la terre, il faut la travailler. Il faut permettre, là je suis en train de refaire mon jardin, je suis en train de dépenser beaucoup d'argent pour faire une bonne terre. Il faut du terreau, il faut de la tourbe, il faut de toutes sortes d'ingrédients, avec de l'argile, avec machin, etc. Bon, nous, on doit travailler la terre pour que, enlever les pierres, enlever les ronces, enlever les cochonneries, enlever les trucs, pour que la semence puisse produire le maximum de fruits. C'est nous qui permettons le maximum de fruits. La vie, elle est là. Donc, il y a juste ça à comprendre. C'est que nous sommes la terre et que nous devons collaborer avec Dieu. L'ivraie, c'est qu'il faut accepter que Dieu, dans la société, eh bien, il ne change pas la société. Elle est ce qu'elle est. S'il est un stimulateur de notre foi, mais tant mieux, c'est à nous de surmonter les difficultés. Ici, c'est la parabole qui montre l'insignifiance de l'Église, hein, mais qui va à la fin devenir une montagne. C'est elle, ceux qui sont les élus de Dieu, qui vont gouverner sur la terre. Ici, c'est la transformation complète de notre vie. Ici, c'est recevoir Jésus comme le trésor majeur de notre vie, et là, eh bien, accepter qu'il y ait un mélange dans l'Église et ne pas s'en offusquer, mais de travailler tous ensemble à la sanctification pour que nous puissions ensemble être à la gloire de Dieu. Amen. Voilà la parabole du royaume. Je vous invite à prier. Seigneur, nous croyons que, Seigneur, tu as donné ces paraboles pour nous aussi, comme les disciples, que nous puissions les comprendre et les mettre en pratique et vivre tel que toi, tu l'as prévu pendant ce temps, jusqu'à la consommation, Seigneur. Nous ne sommes pas encore à la consommation, nous ne sommes pas encore à la fin de ce siècle, mais nous y allons, mais en attendant, Seigneur, nous vivrons les mêmes difficultés, les mêmes souffrances que les chrétiens, même si ce n'est pas la persécution, mais nous avons la chair, le monde et Satan qui essaye d'empêcher que l'autorité de Dieu soit dans nos vies. Mais Seigneur, nous voulons aller plus loin. Tu le sais, et nous te demandons ton aide et ta grâce dans le nom de Jésus. Amen.